Bonjour, bienvenue au Polysécure. Dans le cadre du Sécure, nous enregistrons des épisodes spéciaux avec les conférenciers pour approfondir le sujet. Cette fois-ci, je suis avec Ariane.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter?
Oui, donc Ariane Holbertian, je suis avocate chez Mondata. Étant la seule avocate à l'interne, c'est sûr que ma pratique est assez variée, mais je dirais que ça se concentre davantage sur le droit des affaires, protection des renseignements personnels et cybersécurité.
Très intéressant. Et tu es venu au CQE venir présenter la loi, en ce cas, qui va t'adopter bientôt sur la loi 64, qui vient justement modifier un peu le cadre de protection des informations personnelles. Est-ce que tu peux un peu me parler de ce que tu nous as entretenu?
Oui. En fait, ma présentation, c'était vraiment un survol du projet de loi 64, surtout, ça se concentrait surtout sur les obligations des entreprises privées. Donc, il y avait tout un volet de nouvelles obligations des entreprises privées amenées par le projet de loi. Il y avait également tout l'aspect consentement, qui est les modifications aux exigences de consentement, en fait. Il y avait également les nouvelles exigences. En fait, j'essayais un peu de distinguer certains termes dans le projet de loi. On parle de dépersonnalisation, destruction, anonymisation de renseignements personnels. Puis finalement, je terminais avec les nouveaux pouvoirs de la Commission d'accès à l'information.
Très intéressant. Et justement, les nouveaux pouvoirs de la Commission ressemblent à peu près à quoi? Est-ce qu'il y a un registre? Est-ce qu'il y a des choses de nouvelles par rapport à ce qu'on est habitué actuellement?
Les nouveaux pouvoirs de la Commission, c'est en deux temps. Premièrement, la commission va pouvoir émettre des ordonnances, donc elle va pouvoir ordonner la remise des renseignements personnels impliqués dans un incident de sécurité ou leur destruction, par exemple. Puis dans un deuxième temps, elle va pouvoir maintenant infliger des sanctions administratives pécuniaires aux entreprises qui ne respecteraient pas les obligations de la loi.
D'accord. Puis est-ce que les sanctions qui vont être imposées justement dans ce cadre-là, parce que cette nouvelle loi amène justement un peu de sanctions, ce qui nous ramène un peu plus comme le RGPD qui donne un peu plus de mandat par rapport à la loi actuelle, vont servir à quoi ces sommes-là sont recueillies par qui et est-ce qu'ils vont avoir un objectif particulier ou c'est juste recueilli comme n'importe quelle autre amende?
Ouais, en fait, on ne sait pas exactement... À quoi les montants recueillis dans le cadre des sanctions vont servir. Le projet de loi ne le détermine pas. J'imagine que ça va aller au Conseil du Trésor puis va servir à l'utilisation du gouvernement, là, comme toutes les autres lois qui prévoient des sanctions administratives pécuniaires. Par contre, la Commission d'accès à l'information va devoir rendre public un cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires. Ça va donner une idée des objectifs, des sanctions administratives, exemple, dissuader les manquements à la loi. Ça va également prévoir les critères qui vont guider la décision, soit d'émettre ou non une sanction administrative pécuniaire. Par exemple, c'est quoi la nature ou la gravité du manquement à la loi? Est-ce que c'est la première fois qu'une entreprise le fait ou si ça a un caractère répétitif, pardon? Puis, est-ce que les renseignements impliqués dans le manquement sont sensibles ou non? Donc, tout ça, ça va pouvoir être prévu dans le cadre général d'application qui va être disponible par la Commission d'accès à l'information.
Très intéressant. J'ai hâte de voir justement l'application réelle de tout ça. D'ailleurs, et la nouvelle loi, tu as parlé plus spécifiquement de la portée dans un contexte d'entreprise privée. Est-ce que cette loi-là ne couvre que l'entreprise privée ou elle a une portée des organismes publics, des OBNL et ainsi de suite?
En fait, le projet de loi vient modifier il vient créer des nouvelles obligations tant pour le secteur public que privé. Comme tu viens de le dire, ma présentation, c'était plus axé sur les entreprises privées, mais comme elle vient également modifier la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, ben c'est par là que ça va venir apporter des changements pour le secteur public. Puis également pour ce qui est des OBNL, ça change pas le cadre d'application en fait, des lois actuellement en vigueur. Donc, la loi sur le secteur privé qui est actuellement en vigueur, ça va rester le même. Le projet de loi ne vient pas changer le champ d'application.
D'accord. Cette loi-là, d'ailleurs, dans la présentation, tu abordais quelques définitions, justement, des termes qui sont utilisés, dont la notion de préjudice, en quelle mesure, comment ça se définit, est-ce que tu peux nous en relater quelques-uns comme ça, et donc, justement, qu'est-ce qu'un préjudice sérieux par rapport au sens de la loi?
Oui, en fait, tout commence au moment qu'une entreprise est victime d'un incident de confidentialité. Le projet de loi prévoit que si l'incident de confidentialité présente un risque de préjudice sérieux, l'entreprise va avoir l'obligation d'informer la commission d'accès à l'information et les personnes dont les renseignements personnels sont impliqués dans l'incident. Fait que là, c'est la question de déterminer qu'est-ce qui peut constituer un préjudice sérieux pour savoir si l'entreprise doit le divulguer. Puis le projet de loi prévoit des critères en fait qu'on peut s'appuyer pour déterminer qu'est-ce qui peut être un préjudice sérieux. On parle de quelles sont la sensibilité des renseignements personnels qui sont impliqués dans l'incident. Quelles sont les conséquences qui sont appréhendées de l'utilisation de ce renseignement personnel-là, puis la probabilité que les renseignements personnels soient utilisés à des fins préjudiciables pour les individus. Donc, on peut penser, par exemple, s'il y a un incident de confidentialité qui mène à des risques de vol d'identité ou d'atteinte au dossier de crédit, bien ça, certainement, ça constitue des renseignements sensibles, puis ça, si quelqu'un se fait voler son identité, on s'entend que c'est un préjudice qui peut y être sérieux. Donc, c'est comme ça que ça va être déterminé. Ça va être évalué au cas par cas, j'imagine.
D'accord. Puis dans le sens de définition aussi, je pense qu'il y a le changement au niveau du sens du consentement, où c'est peut-être défini un peu différemment dans cette nouvelle-là, où ça ramène des choses différentes.
Pour ce qui est du consentement, c'est vraiment de s'assurer que la personne donne un consentement valable. Donc, de ne pas envahir les gens d'informations dans des longues politiques quand on l'informe des raisons pour lesquelles on a besoin de collecter ces renseignements personnels. Il faut que ça soit clair, puis il faut que le consentement soit donné pour chacune des fins spécifiques du pourquoi l'entreprise a besoin de ces renseignements personnels, en fait.
D'accord, donc c'est ça, on se rapproche davantage parce que le RGPD oblige davantage que ça soit dans un langage humain et non dans un langage de juriste pour justement aider à personne. Super intéressant, je trouve ça vraiment un plus. À ça, est-ce qu'il amène des notions de correction d'information? Je sais qu'il y avait une question à propos de la correction du dossier de crédit. J'espère que vous savez que déjà à l'heure actuelle, on peut déjà corriger le dossier de crédit, même si c'est souhaitable que vous ayez corrigé ces informations-là là, rapidement. Mais est-ce que la loi apporte des modifications particulières au niveau de correction des informations qui sont détenues par les entreprises privées et publiques?
Oui, ben en fait, c'est juste de préciser, là, s'assurer que les individus ils ont le droit de corriger les renseignements personnels. S'ils se rendent compte qu'une entreprise détient des renseignements personnels inexacts à leur sujet, ben il faut que l'entreprise permette à la personne de les modifier. Puis exactement, c'est le cas pour le dossier de crédit. C'est prévu par le projet de loi, mais c'est déjà prévu en ce moment là, que si quelqu'un se rend compte que ses renseignements personnels sont inexacts dans son dossier de crédit, bien sûr, qu'il peut déjà en faire la demande. Pas besoin d'attendre que le projet de loi entre en vigueur.
Super. Et à ça, là, il y a deux questions qui ressemblaient, puis c'est un peu intéressant. Autant savoir, est-ce que, comme la commission d'accès a déjà des registres qui sont publics sur un certain nombre d'informations, comme sur les informations de biométrie, est-ce qu'il va y avoir des registres similaires au niveau des obligations, des choses comme ça au niveau des entreprises? Et comment on peut savoir qu'une entreprise l'a fait? Comment on peut valider que tout ça a été appliqué et que les entreprises sont respectueuses de ce nouveau cadre-là, où on va plus au gré des plaintes et au gré des observations de manquement qui va déceler ça?
Oui, en fait, je vois deux questions dans ce que tu viens de demander. Donc, la première, pour ce qui est des registres, le projet de loi prévoit un type de registre que la Commission d'accès à l'information doit tenir à jour, puis c'est un registre des agents de renseignement personnel. Donc, les coordonnées de ces agents de renseignement personnel-là devront être mises en ligne sur le site Web. Qu'est-ce que c'est un agent de renseignement personnel? C'est des personnes qui font le commerce de constituer des dossiers sur autrui. Donc, on peut penser à des agences d'évaluation du crédit, des agences de recouvrement, par exemple. C'est le seul registre que le projet de loi prévoit, donne l'obligation à la Commission d'accès à l'information de tenir à jour sur son site Web. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres là, avec le temps. Évidemment, c'est que la Commission d'accès à l'information donne ce genre d'outils-là pour aider les gens à se conformer à la loi. Puis, dans un deuxième temps, pour s'assurer que les entreprises soient conformes, le projet de loi prévoit en fait prévoit que les entreprises doivent avoir un système de gestion des plaintes à l'interne. Donc, premièrement, si un client, un individu se rend compte que les entreprises ne respectent pas leurs obligations, on va pouvoir faire une plainte à l'interne au sein de l'entreprise. Si jamais il se rend compte que le processus de plainte ne fonctionne pas, il y a toujours la possibilité de faire une plainte directement auprès de la Commission d'accès à l'information qui pourra ensuite, évidemment, faire enquête là, s'il y a lieu.
OK. Puis ça, il y a une autre question qui a été posée, puis moi aussi, elle m'intéresse énormément parce que c'est quand même, puis le RGPD offrait ça. un délai de grâce d'application, parce que probablement que pour beaucoup d'entreprises québécoises, ces changements-là risquent d'être significatifs sur leur façon de faire, où ils devront découpler de l'information. Puis, genre, il y a une autre question parallèle à ça sur dans quelle mesure l'information qui est couplée ensemble peut être problématique dans ce qui est conservé. Donc, est-ce que il y a un délai de grâce qui va être prévu à même la mise en application de la loi et d'une capacité des entreprises de se retourner de côté? Et ensuite, qu'est-ce qui définit ensuite la capacité des entreprises de manipuler l'information pour l'anonymiser, jusqu'à quel point ça doit être anonymisé?
Oui. En fait, la majorité des dispositions du projet de loi va rentrer en vigueur un an à la suite de la sanction du projet de loi. Ça n'a pas encore eu lieu. Comme on sait, on est à l'étape de l'étude détaillée en commission en ce moment. Donc, une fois que la loi a été sanctionnée, la majorité des dispositions, ça va prendre un an avant qu'elle rentre officiellement en vigueur. Il y a certaines autres dispositions, je pense au droit à la portabilité des renseignements personnels, par exemple, que ça, c'est 3 ans, parce que ça peut être un peu plus long à implanter comme processus. Sinon, pour ce qui est de l'anonymisation, il y a deux options. En fait, c'est quand les fins pour lesquelles les renseignements personnels ont été collectés sont complétés, l'entreprise a deux choix par le projet de loi. C'est soit de détruire les renseignements personnels parce qu'elle n'en a plus besoin, ou de les anonymiser. Donc, ça a un effet équivalent. Puis, donc, c'est ça, je porte la question, excuse-moi.
C'est un peu ça, mais c'est dans... Ouais. Là, c'est un peu ça, mais c'est la question allait plus loin. C'est dans quelle mesure on peut définir que c'est anonymisé? C'est quoi est-ce qu'il y a des critères qui sont définis à la loi? Qu'est-ce qu'une information anonymisée? Parce que ça peut devenir complexe à certains égards, parce qu'on est capable quand même de faire des croisements minimaux qui ramènent la désanonymisation. Est-ce que c'est prévu dans la loi, ou c'est plus laissé au bon vouloir de la commission à l'appliquer dans le réel?
En fait, le critère pour l'anonymisation, c'est qu'il ne faut plus que ça soit possible d'identifier ni directement ni indirectement une personne. C'est sûr que là, avec l'avancement des technologies, c'est quand même... ça peut être questionné parce que ça reste toujours techniquement, ça pourrait être possible de réidentifier une personne à partir de renseignements anonymisés. Par contre, le projet de loi vient dire que ça, c'est une infraction. C'est pas permis de tenter de réidentifier une personne à partir de renseignements qui auraient été dépersonnalisés ou anonymisés.
Donc, c'est ça, le fardeau est sur l'entreprise. Elle s'assure que son processus d'anonymisation demeure toujours conforme selon l'avancement des technologies.
Et tout... on parle des meilleures pratiques de l'industrie, là. Donc, ça reste large.
Et donc, à ce moment, puis tous ceux qui feraient un effort particulier pour défaire ce processus-là seraient mis à l'amende à ce moment-là. Donc, c'est une activité qui est explicitement non autorisée dans le cadre de la loi.
Ouais, intéressant.
J'ai hâte de voir comment ça va se matérialiser dans le réel. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de beaux défis technologiques. Et dernière question, puis probablement qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce volet-là très particulier parce qu'on le voit ailleurs. Rendre public lorsqu'une entreprise a été attaquée. Et dans quelle mesure la loi vient encadrer ça? Et dans quelle mesure, quel est le type d'effort qui doit être fait en ce sens-là?
Une entreprise, tu veux dire qu'il y aurait eu un incident de confidentialité?
Un incident de confidentialité.
Oui, ça revient. C'est le même critère que je parlais plus tôt. Donc, le critère, on revient toujours au préjudice sérieux. Quand une entreprise vit un incident de confidentialité qui pose un risque de préjudice sérieux, c'est à ce moment-là qu'elle va devoir aviser les personnes visées et la commission d'accès à l'information. Donc, à ce moment-là, ça peut devenir public via une décision de la commission d'accès à l'information éventuellement, ou par le fait que les individus vont être informés qui ont été victimes d'un incident de confidentialité à cause de l'entreprise, mais parce que l'entreprise a été victime d'un incident.
Il y a eu un problème malheureux, puis ça a exposé des données personnelles, donc c'est pas mal. Mais c'est vraiment dans un contexte de données personnelles, c'est pas dans un contexte d'incident pur et dur, dans lequel, parce qu'il y a beaucoup de gens qui désirent que toutes les entreprises qui ont un incident de sécurité, peu importe la nature, soient tenues de le déclarer publiquement. Dans ce cas-ci, c'est pas ça que ça fait, c'est vraiment si ça affecte la donnée personnelle.
Exactement.
Super intéressant. Moi, ça fait le tour des questions qui avaient été du public et mes questions à moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter pour ça, ou ça fait pas mal le tour.
J'avais une autre question qu'on m'avait posée que je trouvais quand même intéressante, bien que j'ai pas une réponse peut-être satisfaisante. Je pense que ça serait intéressant de l'aborder. On m'avait demandé si c'était possible de créer une clause dans un contrat pour accepter qu'une fois que les fins pour lesquelles les renseignements personnels ont été collectés sont réalisés, qu'on peut accepter encore que certaines données soient associées au nom de client, ou si ça sera plus du tout acceptable légalement. Je trouvais que c'était une bonne question parce que le projet de loi ne prévoit pas, en fait, si ça va être possible ou non de renoncer contractuellement aux obligations prévues dans le projet de loi. Mais évidemment, si moi je réfléchis sur la question, à mon avis, ce serait très contradictoire d'énoncer tous ces principes-là, puis d'un autre côté, de permettre de les contourner de manière contractuelle. Si on prend l'exemple du RGPD, c'est des principes similaires, puis je sais que c'est pas possible de s'en écarter. Donc, ça reste à voir, mais je trouvais que c'était une question très intéressante.
Très intéressant. Peut-être que pendant les dernières étapes, avant la sanction de la loi, peut-être que ça va être des questions qui vont être abordées. Je te remercie énormément de ton temps. C'est très intéressant. Et comme la conférence, d'ailleurs, là, ça a permis d'étancher un peu ma curiosité par rapport à cette loi-là, les effets que ça va avoir incidemment sur ma profession, la profession de bien d'autres gens. Je te remercie énormément.
Merci de m'avoir reçu.